en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une valeur sûre du marché de l'art. C'est surtout une icône de la sculpture et un personnage fascinant et éminemment romanesque dont le destin tragique a inspiré des cinéastes comme Bruno Nutten, Bruno Dumont et Jacques Doyon qui ont confié son rôle à Isabelle Adjani, Juliette Binoche ou Izia Higelin. Et voici que Camille Claudel devient héroïne de théâtre dans une pièce d'une grande intensité qui mêle art, théâtre et danse. Sa vie, mais aussi ses œuvres et donc ses statues sont littéralement incarnées avec sensibilité et poésie dans cette pièce écrite et mise en scène par la dramaturge australienne Wendy Beckett et chorégraphiée par sa compatriote Beryl Tankard, mais jouée, incarnée, interprétée, dansée, sublimée par des comédiens et danseurs français. Trois d'entre eux sont avec nous, la danseuse Mathilde Rance et les comédiens Célia Catalifo et Swann de Marsan, qui incarnent respectivement Camille Claudel et Rodin. Claudel, de l'Ascension à la Chute, est donc à l'affiche jusqu'au 24 mars de l'Athénée Théâtre Louis Jouvet à Paris, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors, quand la pièce commence, il y a trois femmes sur scène. Il y a Camille et puis ses deux amies, apprenties sculptrices comme elle, incarnées par Marie Brugière et Marie-France Alvarez. Et d'emblée, dès les premières secondes, on sent que Camille Claudel n'est pas tout à fait comme les autres, qu'elle a une ambition et une personnalité singulière, Célia Catalifo. Qu'est-ce qu'elle a de plus ou de moins peut-être que les autres?
Alors, je pense que Camille, très jeune, a eu, l'inspiration d'être réellement différente des autres et encore plus sans rentrer dans une forme de mégalomanie, mais quand même, je pense qu'elle avait vraiment la conscience d'être un génie.
Clairement, un génie.
Vous ne dites même pas
ambitieuse, un génie, tout de suite.
Ambitieuse à 18 ans, mais à mon avis, l'idée du génie est arrivée quand même très très vite. Parce que une toute petite fille qui se balade dans la campagne et qui commence à déterrer de la glaise sous sa grotte préférée pour commencer à sculpter des petites statuettes, comme dit sa mère, qui ne sont pas des petites statuettes, qui sont vraiment une recherche du sentiment très très jeune. Voilà, alors ça passait sur les chiens, ça passait sur les os qu'elle trouvait et qu'elle avait envie de reproduire, mais il y avait une espèce quand même de volonté féroce et sauvage de redonner vie à quelque chose qui était entre la vie et la mort.
Oui, féroce et sauvage, on a l'impression que vous évoquez un animal, c'est le Catalifo.
Eh bien, il y a quelque chose d'assez sauvage chez Camille, oui, ça c'est certain. Un refus de l'autorité terrifiant et une volonté d'émancipation. L'émancipation en général, c'est à l'adolescence. Je pense que Camille, à 3 ans, elle avait déjà envie d'être émancipée.
Oui, on sent en tout cas que c'est une jeune femme qui a confiance en elle. Il y a un vrai orgueil aussi.
Il y a un orgueil et puis il y a un combat permanent avec une famille en dehors du père, qui est totalement anti-artistique, une famille assez austère, la famille Claudel, bourgeoisie de province, de notaire, pas un milieu complètement exaltant artistiquement. Et il y a cette petite fille qui a cette aspiration très très forte, petite, et qui est défendue par le père, qui va décider d'envoyer ses deux aînés, Camille et Paul, au charbon artistique, parce que c'est vraiment lui qui a été le bienfaiteur, le point de démarrage de tout ça.
Et donc, Célia Catalifo, vous incarnez sur la scène de l'Athénée ce personnage de Camille Claudel, aux côtés donc de ses deux camarades de classe, camarades d'apprentissage, arrive Rodin. Alors Rodin, pour elle, c'est vraiment le maître absolu, c'est vraiment l'idole, et c'est vous qui l'incarnez, Swann de Marsan.
J'adore l'ambition chez les femmes, c'est séduisant. Toutes les femmes sont ravissantes, selon moi, mais leur atout le plus captivant est sans aucun doute le talent.
Monsieur Rodin, cette académie est l'une des seules qui ouvre ses portes aux femmes. Et nous avons toutes travaillé très dur pour être acceptées ici.
Montrez-moi ce que vous avez.
Oh, mais pas si vite, c'est en gestation. Posez-vous.
Les modèles posent. Les sculpteurs s'animent. Quel est votre nom, mademoiselle?
Mais vous ne m'avez pas demandé pourquoi j'étudie, monsieur.
Je peux voir pourquoi c'est là.
J'essaie d'articuler l'émotion de l'individu, ce qui touche à l'intime. Mais cela ne peut pas être inscrit uniquement sur le visage. Il faut aussi que cela vive dans le corps de la sculpture, si l'on veut s'approcher de la vérité.
L'individu. Dites-moi, est-ce que vous ressemblez à cette demoiselle? Est-ce que chacune de vos sculptures cherche à relever un défi?
Une de mes premières sculptures à l'âge de 12 ans était David et Goliath.
Et êtes-vous une David? Une Goliath.
Mais peu importe, mais c'est bien sûr l'inégalité qui compte. Et grâce à la sculpture, elle peut être vaincue. J'ai l'intention de tailler en pièces toutes les forces restrictives autour de moi. J'ai l'intention d'être libre. Moi aussi. Et moi aussi. Toujours libre.
Je n'ai pas retenu votre nom, mademoiselle ?
Claudel.
Et on est frappé, hein, Swann de Marsan, par, à la fois par la simplicité, hein, de Rodin quand vous entrez en scène, et en même temps par l'assurance du personnage. Quel est l'état d'esprit de Rodin quand il rencontre Camille pour la première fois ?
Ah, je pense que je vais rejoindre vraiment ce que disait Célia, c'est que je suis convaincu que les deux ont prennent conscience instantanément, se reconnaissent. Que l'animalité dont on parlait, elle est présente, elle a toujours été chez Rodin, je pense qu'effectivement elle a toujours été chez Camille aussi, et que donc on est sur une rencontre animale.
Donc on se renifle, on essaie de s'apprivoiser.
Ouais.
Chacun marque un peu son territoire au début.
Ah bah il faut bien, elle rentre dedans quand même la petite.
Oui, clairement, hein. Oui, absolument.
Et en fait c'est même très très déroutant même dans le travail d'acteur de se dire on incarne un génie, un maître, ouais. Et puis dans les trois premières lignes il se fait aligner d'entrée de jeu, ouais. Et il répond pas. Et donc c'était un vrai challenge d'entrer sur le rapport entre les deux.
Ouais, ils ont tous les deux une très haute idée de leur art, une très haute idée de la sculpture qu'ils construisent d'ailleurs un peu en opposition à la société de l'époque.
Complètement, et là où je vous rejoins, c'est qu'ils ont une très haute idée de leur art, plus que de ce qu'ils produisent, de la démarche artistique, chez Rodin, on trouve dans plein de textes des références à l'artisanat, à être un bon artisan, à faire les choses avec humilité, avec respect, et évidemment chez Camille aussi. Donc il y a vraiment cette démarche de fond, de respecter l'action, la démarche artistique.
Oui, donc on respecte la démarche artistique. Le bonhomme, lui, est un peu moins respecté quand même dans les hautes sphères de la bourgeoisie de l'époque.
Hein. À ce moment-là,
de Marsan, oui. c'est un homme qui fait scandale, c'est un homme un peu sulfureux. Qu'est-ce qu'on lui reproche ?
Alors c'est en plusieurs temps, parce que en fait il a percé très tard, hein, c'est 43 ans l'âge des reins, et encore ça commence en Belgique avant d'être connu en France. Mais on lui reproche assez vite, je pense, son côté ours, le fait que dans son atelier c'est plein de modèles qui se baladent nus un peu partout, parce que lui voulait s'habituer à la présence des corps nus. Donc il y a forcément, pour la bourgeoisie du moment, ça peut avoir des allures de maison close.
Oui, et c'est un peu le cas pour la maman de Camille, hein, qui est jouée par Christine Gagnepain, qui est absolument formidable. Elle est vraiment très dévote, hein, donc voilà, on a un peu l'impression qu'il y a Dieu comme ça dans un petit coin en haut de la scène, et qu'elle le regarde en permanence. La morale chrétienne, c'est ce qui guide sa vie. Et puis il y a son frère, hein, qui est joué par Clovis Foin. Donc son frère, c'est évidemment le futur diplomate et écrivain Paul Claudel. Alors lui, il est un peu moins rigide, hein, au début. Célia Catalifo, il a l'air plutôt sympathique, et puis plus la pièce passe, plus il a l'air veule, créatif, presque médiocre, j'ai envie de dire.
En tout cas, pas à la hauteur.
Oui,
mais
pas à la hauteur de Camille.
Pas à la hauteur de Camille, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le frère et sœur, c'est quand même une histoire... C'est quand même une histoire magnifique entre les deux.
Ils sont très très proches.
Ils sont extrêmement proches. Ils se poussent l'un et l'autre dans leur vocation. Chacun a une grande admiration pour l'autre. Peut-être même Paul qui vraiment envisage sa sœur comme une héroïne moderne. Enfin, et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans la plupart de ses pièces, on reconnaîtra Camille dans la plupart de ses personnages féminins, et parfois même dans deux personnages dans une même pièce, parce que c'était un personnage à la fois adorable et insondable pour lui. Enfin, c'était la grande sœur totalement respectée, et en même temps qui le terrifiait, parce que elle ne le ménageait pas, elle ne ménageait personne, hein, de toute façon.
Oui, alors dans un premier temps, il joue un peu les intermédiaires entre Camille et sa mère. Et puis, son ambition personnelle prend un petit peu le dessus sur son amour pour sa sœur.
Totalement. Et puis à partir du moment où l'ambition se met en chemin, on peut se raconter aussi que sa sœur, à ce moment-là, il comprend qu'elle va prendre trop de place. Voilà. Et qu'il y a l'artiste et qu'il y a aussi cette femme borderline, fragile, qui fait du scandale, qui ne laisse personne indifférent, mais qui même prend beaucoup, beaucoup de place. Oui. Et c'est peut-être un petit peu trop quand on est un jeune diplomate en devenir et un futur poète.
Swann de Marsan.
Juste pour compléter, je dirais que faut pas oublier aussi le magnétisme, l'inspiration qu'elle dégage. Je veux dire, ce qu'on disait sur la rencontre avec Rodin, je pense que ça doit être omniprésent chez Paul d'avoir une sœur aussi puissante, aussi inspirante et peut-être aussi attirante, je sais pas. Mais
Tu sais que Rodin sera bientôt de retour ?
En même temps, je ne suis pas l'étudiante favorite, n'est-ce pas ?
C'est si évident.
Oh oui. Tu as toute son attention. Et tu m'as l'air d'aimer cela.
Il est très attirant.
Et beaucoup trop vieux pour moi.
Il fait partie du patrimoine. Il est... Oh, mais non, il est... si sûr de lui.
Il est trop expérimenté pour toi.
J'ai de l'expérience.
Mais quelle expérience, tu es vierge.
Et si je ne l'étais pas?
Tu ne l'as pas fait. Mais Camille.
Mais non.
Je suis sûre qu'il a eu beaucoup de femmes.
Qu'un doute.
Ah non, sois sérieuse. C'est une personnalité publique. Il est inaccessible.
Tu as raison, Jessie. Ça ne marchera jamais.
Puis il y a sa femme et son fils.
Ils ne sont pas officiellement mariés.
Donc il est techniquement libre? Non pas que tu penses à quoi que ce soit.
Mais pas du tout. Et puis, comment pourrais-je alors être reconnue comme un sculpteur à part entière?
Je ne pourrais pas.
Vous ne verrez en moi que la femme élève de Rodin. Jamais Camille Claudel.
Mais tu pourrais l'épouser?
Je pourrais faire n'importe quoi avec lui.
N'importe quoi?
Tout. Il croit en moi, en mon travail. Il me présente à de grands galeristes alors que je viens tout juste de commencer.
Il a des connaissances, c'est Auguste Rodin.
Il inspire tout le monde autour de lui. Il est tellement... passionné.
Oh, Camille. Tu l'aimes?
Je pourrais.
On a un peu l'impression d'une conversation entre deux copines d'aujourd'hui. C'est très très moderne, hein, le texte de Wendy Beckett, Célia Catalifo. Et quand on l'entend là, parce qu'il y a une petite différence entre ce qu'elle raconte à son amie Jessie et ce qu'elle pense réellement, est-ce que l'ambition de Camille est au cœur pour vous de son amour pour Rodin? Est-ce qu'elle l'aime pas un petit peu par intérêt? Ou bien est-ce que c'est réellement une vraie passion amoureuse, pure, romantique?
Oh, moi, très honnêtement, je pense que c'est une grande passion. Je pense qu'elle a été follement, c'est le cas de le dire, amoureuse de Rodin. Il est évident que quand un maître de l'âge de Rodin et de son statut social, artistique et de l'influence qu'il a dans la société actuelle, quand on est une toute jeune sculpteuse, on ne va pas se mentir, il est évident qu'elle a sûrement été très flattée, malgré la reconnaissance de génie réciproque, mais... Bon, bien sûr que ça n'est pas rien d'être l'élève préféré. Après, je pense que le magnétisme de Rodin disons qu'elle aimait autant l'artiste que l'homme. Ça, c'est certain. Peut-être qu'elle a aimé l'artiste en premier, possible. Mais je pense que quand on passe 15 ans d'histoire, qu'on vit 15 ans d'histoire avec un homme plus âgé, en plus en l'occurrence, je pense vraiment qu'on l'aime très très fort.
Et pour vous, Swann de Marsan, qu'est-ce qui attire Rodin chez Camille? C'est le sculpteur qui lui parle et qui lui demande de poser pour elle, ou c'est le futur amant?
Quelle différence?
Lui n'en fait point.
Je crois pas. Je crois qu'il est autant amoureux de l'artiste que la femme. C'est l'inspiration, tout remue tout le temps. J'arrête pas de dire l'inspiration alors que lui refusait
oui,
ce mot, le condamnait en long, en large et en travers. Mais justement, c'est l'amour de la nature. L'amour de la nature et de trouver une pépite, un joyau dans la nature quasi parfait sur lequel il y a presque rien à ajouter, c'est forcément complètement hypnotique et complètement attirant et je pense que c'est ça vraiment qui est le moteur.
Oui, pourtant il va pas jusqu'au bout, Swann de Marsan, puisque lorsque Camille lui demande de rompre avec son épouse, de rompre avec sa femme et de se consacrer exclusivement à leur amour, il recule.
On est d'accord. Alors il y a deux choses. Il y a primo, je pense que comme beaucoup de grands génies, de grands artistes, faut pas se leurrer. Hein, tout le reste passe après eux. Après eux-mêmes. Et donc lui, son choix à lui, je veux dire, quand on voit qu'il a même pas reconnu son fils, etc., c'est qu'il avait une vraie conscience de sa postérité, une vraie conscience de ce qu'il voulait laisser au monde, de son impact sur le monde, sur la vie. Donc je pense que c'est une des raisons majeures. Il y a la droiture, le devoir, c'est dit dans la pièce, le devoir envers Rose Beret, c'est la première à avoir cru en lui, elle travaillait dans l'atelier, elle était tantôt son assistante, son modèle, elle a cru en lui tout de suite, et il lui doit d'être qui il est aujourd'hui. Et je crois que l'équilibre, ce qui l'en a empêché, mon interprétation, après j'y étais pas évidemment, mais en tout cas c'est celle-ci, c'est le devoir.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
quelques notes de la musique d'Olivier Messiaen hein, qui rythme le spectacle. Alors Célia Catalifo n'est pas la seule à interpréter le personnage de Camille Claudel, car l'originalité du spectacle, c'est de nous faire rentrer visuellement dans l'esprit tourmenté du personnage, dans la psychologie du personnage de Camille Claudel. Et là, c'est là, Mathilde Rance, que vous intervenez. Alors ça passe par le décor, ça passe par la vidéo, par le film qui est projeté sur le rideau qui se trouve en fond de scène, et ça passe surtout par vos gestes à vous, par le mouvement, par la chorégraphie de Meryl Tankard. C'est vous qui nous faites, nous spectateurs, entrer dans le cerveau, dans les tourments, dans les rêves, dans le cauchemar du personnage de Camille Claudel. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce personnage?
Pour moi, c'est plus la partie vraiment poétique qui est portée par les sculptures en elles-mêmes et par ce que ces deux artistes ont vraiment créé, c'est-à-dire comment ils ont projeté dans leur sculpture leur sensibilité. Et du coup, nous, en tant que danseurs, parce qu'on a travaillé sur à partir des sculptures réelles de Camille Claudel et de Auguste Rodin, c'est comme si on était rentré dans ce qu'ils ont essayé, eux, de partager au monde, de choses qu'on ne peut pas dire, de choses vraiment qui sont purement sensibles. Et nous, en tant que danseurs, enfin moi en tant que danseuse, c'est comme si on donnait à voir et à sentir cette partie-là de leur vie, de leur œuvre.
Mais vous avez vraiment travaillé en binôme avec Célia Catalifo. Comment ça se passe? Parce que à de nombreuses reprises sur le plateau, il y a deux Camille Claudel qui n'en font qu'une.
Alors du coup, c'est un peu, disons qu'on a surtout travaillé en tant que trois, enfin nous les trois danseurs, on a surtout travaillé à partir des différentes sculptures. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis plus, j'incarne plus les représentations de Camille. Mais toujours à travers des sculptures réelles de ces deux artistes.
Donc ça veut dire que les postures, peut-être même les mouvements, les amorces de mouvements, voire les déplacements ont été directement inspirés par les sculptures réelles.
Voilà, c'est ça. En fait, tout ce qui est chorégraphique est toujours issu de sculptures réelles.
Voilà.
C'était vraiment notre base de travail. On s'est appuyé là-dessus et c'est ça qu'on a essayé d'explorer et d'ouvrir, de développer.
Mais votre personnage, vous l'avez construit en complémentarité ou en illustration du personnage de Célia Catalifo?
On l'a construit déjà au départ séparément, c'est-à-dire que les danseurs, on a travaillé pendant 2 semaines sans les comédiens. Donc du coup, nous, on s'est vraiment attachés à rentrer dans la poétique des sculptures. Et après, on a proposé ça aux comédiens et en les mettant en lien avec ce qui se passait du côté de la mise en scène. Oui.
Célia Catalifo, c'est un partenaire comme un autre quand on danseuse qui est soi-même.
Non, c'est pas un partenaire comme un autre. C'est-à-dire que quand on s'est retrouvé effectivement, quand la fusion s'est créée entre les danseurs et les comédiens, et notamment avec Mathilde, bien sûr, qui est mon double, hein. Y a quelque chose où on a senti qu'on se portait l'une l'autre. Parce que vous me posiez la question au départ de cette conscience d'être différente. Comment elle est différente?
Oui.
Je pense qu'il y a quelque chose aussi que je n'ai pas dit au départ, qui est cette volonté, cette capacité de travail absolument incroyable qu'elle avait, qui la caractérisait, cette volonté où elle voyait quand même de l'art partout. Donc on peut en venir à la contemplation, tout ça. Mais du coup, pour moi, en tant que comédienne, c'est aussi dans la manière, non pas de m'exprimer, mais en tout cas de bouger sur un plateau, le travail avec eux, il a été fondamental. Parce que d'un coup, on a deux corps de métier différents et qui ont organiquement quelque chose à raconter ensemble. Et c'est moi, je n'avais jamais vécu ça sur un plateau de théâtre.
Ouais,
donc c'est un beau porté.
Voilà, et c'est absolument magique hein, sur la scène de l'Athénée Théâtre Louis Jouvet. Célia Catalifo, Swann de Marsan et Mathilde Rance, on va marquer une très courte pause pour le Flash. On se retrouve juste après et vous m'en direz des nouvelles.
Tirer des nouvelles, Jean-François Cadet.
théâtre aujourd'hui dans VMDN avec Célia Catalifo, Mathilde Rance et Swann de Marsan pour la pièce Claudel de l'Ascension à la Chute au théâtre de l'Athénée à Paris. Un texte écrit et mis en scène par l'Australienne Wendy Beckett. Alors comment ça s'est passé, Swann de Marsan? Parce que vous avez été dirigé en anglais, en français. Comment ça s'est passé?
Ah, vaste question.
Non, en fait. Ah, visiblement, ça n'a pas dû être tout à fait simple.
Bah, en fait, non, mais la première chose, c'est que c'est pas super simple parce qu'on n'est pas parfaitement bilingue tous autant qu'on est. On parle tous anglais, donc ça va, on se comprenait, il n'y avait pas de problème. Après, il y a un état d'esprit quand même anglo-saxon qui est, je crois, que à partir du moment où Wendy a fait une distribution, elle a confiance dans cette distribution et donc a peut-être, on va dire pas à l'inverse, mais un peu différemment de souvent avec des metteurs en scène français, là on avait quelqu'un qui d'emblée nous faisait confiance et donc attendait nos propositions plutôt que de chercher à nous emmener tout de suite quelque part.
Oui. Donc c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a confiance, mais en même temps c'est quand même une responsabilité et un poids supplémentaire.
Parce que tout en étant dans un, nous n'avons jamais été perdus dans ce spectacle, dans le sens où Wendy Beckett avait déjà, comme on pourrait parler au cinéma, d'un synopsis. Elle avait un cadre extrêmement précis. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par tableau, par image, par vision. Donc nous étions mis dans des cadres. Ce qui s'est passé, et ce qui était assez beau, c'est que les cadres, les acteurs français, on a essayé de les exploser un petit peu. Et ça, c'était une surprise pour elle, et une surprise heureuse, parce qu'elle nous a laissé à la fois totalement libres, tout en demandant cette tenue, et de respecter la vision qu'elle avait de cette histoire qu'elle avait écrite à partir évidemment d'une histoire vraie.
Et qu'elle avait écrite en anglais, en plus, et qu'il a donc fallu traduire en français pour que vous puissiez la donner à un public français
et francophone.
Tout à fait. Ça,
c'est encore une autre aventure, mais.
Swann de Marsan.
Et surtout, on a eu cette chance de savoir très tôt qu'on était pris. Mmh. Et on n'avait pas le texte tout de suite. Il y a, je sais pas exactement, mais on a eu le texte que 4 mois après avoir su qu'on était pris. Et c'est vrai que quand on incarne des personnages aussi énormes qui ont existé et sur lesquels il y a tellement d'écrits, nous, on a travaillé comme des fous pendant 4 mois à essayer d'engranger un maximum.
Ouais. Alors, vous êtes inspiré des films, j'évoquais. L'idée, c'était évidemment de proposer quelque chose de différent. C'était pas de vous couler dans la pièce des comédiens qui avaient déjà interprété vos personnages.
En fait, c'est de faire la même chose qu'eux, c'est-à-dire
en
pas,
mieux.
C'est pas de faire la même chose que leur démarche, c'est-à-dire que on a tous eu la responsabilité d'incarner Auguste Rodin, Camille Claudel. Donc c'est ça la démarche de fond. Évidemment que j'imagine bien que Célia a pas cherché à faire du Adjani ou moi du Depardieu ou du Lindon. C'est
non, pas humblement déjà, on sait qu'on va toucher quelque chose de très très grand quand même.
Voilà.
Donc on rentre avec humilité. Donc on rentre au départ dans une enquête. Enfin, moi, personnellement, ouais, j'ai lu à peu près tout ce qui pouvait exister. J'ai rêvé beaucoup. Je suis allée beaucoup dans des expos, essayer de changer un petit peu mon regard de d'habitude sur ce qu'était une œuvre d'art. Enfin, essayer de comprendre des choses sensiblement, en fait. Une approche sensible et documentée. C'est très important de savoir un tout petit peu quand même. Bien sûr, les traits de caractère des personnages qu'on interprète, c'est quand même une base.
C'est bien sûr.
Après, évidemment, Adjani, Binoche, Depardieu, c'est tellement des génies qui se confrontent à des génies que on se dit que on ne se compare pas. Ça ne serait pas intéressant. Par contre, oui, c'est inspirant. On va pas se mentir.
Alors, la pièce donne littéralement vie, on le disait en première partie de l'émission, aux célèbres sculptures de Camille Claudel grâce aux chorégraphies de Meryl Tankard et aux 3 danseurs dont vous faites partie. Donc, Mathilde Rance aux côtés de Sébastien Dumont, qui est un géant, qui est une sorte de penseur de Rodin ou de Rodin lui-même à certains moments, d'ailleurs musculeux, très puissant, et puis il y a Audrey Vallom qui est également à vos côtés sur scène, et vous interprétez donc ces statues en mouvement. Vous avez donc tous les trois les corps recouverts de maquillage blanc, donc c'est une poudre, ça, et bon, faut pas qu'il y en ait, j'imagine, trop sur le plateau.
Quand il est sec, ça va, il reste sur le corps.
Voilà, avec des sous-vêtements couleur chair. Le plus dur, c'est quoi, Mathilde Rance? C'est l'immobilité quand vous jouez la statue. J'imagine que de pas cligner des yeux, ça doit demander quand même une vraie concentration. Ou bien c'est justement d'enclencher ces mouvements qui sont très minimalistes.
Je pense que ça dépend des danseurs. Pour moi, le plus dur, ce serait effectivement l'immobilité. Parce que du coup, ça demande beaucoup de patience et puis de bien gérer ses appuis, son poids, etc.
Et c'est un réglage au millimètre près, quoi, en fait.
Oui,
ça, vous êtes
oui,
systématiquement exactement dans la même posture d'une représentation à une autre.
Oui, tout à fait. Et ça a été un travail de 5 semaines, en fait. Donc 5 semaines à reprendre toujours les mêmes postures, à aller de plus en plus dans la finesse du détail corporel et aussi de l'interprétation, c'est-à-dire de la partie émotionnelle des sculptures.
Quand elles bougent?
Non, en fait, quand elles sont immobiles.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on a vraiment fait un travail d'observation très très approfondi pour essayer de voir déjà très concrètement comment les corps se placent les uns par rapport aux autres, et aussi émotionnellement qu'est-ce qu'on incarne sur chaque sculpture.
Et comment est-ce que vous avez géré la question du regard de ces statues?
Eh ben, pour moi, c'est plutôt le regard vient plutôt de l'émotion dans laquelle on est. Et c'est comme le prolongement de l'émotion dans laquelle on est. Après, la question technique de cligner des yeux, etc., je crois que ça reste secondaire quand
oui,
même.
Oui, on vous pardonne de toute façon
voilà.
Si ça vous arrive
oui.
Naturellement.
Ouais,
oui.
Et puis, de toute façon, on nous voit arriver sur scène dans la pénombre. On sait qu'on n'est pas des vrais.
Oui, bien sûr, mais l'émotion ouais. Justement, parce que vous parliez d'émotion, elle passe par quoi lorsqu'on ne bouge pas?
Eh bien, lorsqu'on ne bouge pas, je pense qu'elle passe par l'imaginaire aussi. Et par simplement la posture dans laquelle on est concrètement, qui déjà porte énormément en fait. Et c'est ça la force des sculptures, c'est la magie des sculpteurs, c'est qu'ils arrivent à donner vie à quelque chose qui ne bouge pas et pourtant qui exprime énormément en termes émotionnels. Et du coup nous, en plus, on est toujours traversés par plein de choses parce que pour le coup on est réellement vivant et que et voilà, et puis on assiste, on est présent à tout ce qui se passe sur scène. Donc forcément, on est perpétuellement traversé par tout ce qui nous arrive concrètement sur scène.
Célia Catalifo.
Oui, une petite précision, parce qu'effectivement, le travail des sculpteurs, c'est ça. Celui de Camille Claudel, c'était encore plus d'articuler l'émotion, elle le dit à un moment. Cette recherche de l'émotion était prégnante partout. Et on disait avec Swan tout à l'heure dans notre travail en amont, nous avons également pris quelques cours de sculpture avec Swan.
Ah oui, vous avez mis la main à la pâte pour le sûr, vraiment.
Pour le geste sûr, pour les bons gestes, pour la bonne énergie, pour l'ambiance aussi, la solitude d'un atelier, c'est très important. Mais je voulais dire quelque chose par rapport à ce que fait Mathilde dans le spectacle. C'est que moi, la première fois que j'ai vu le travail de Mathilde et des autres danseurs, mais il se trouve que c'est très troublant parce que Mathilde ressemble incroyablement à l'implorante, à la figure de l'implorante. Son visage est exactement, quasiment le même. Et ça, je me suis dit que il y avait quand même quelque chose d'un peu magique qui était en train de se passer dans cette petite aventure.
Alors ça, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas été casté pour ça, quand même.
C'est complètement fou, vraiment.
Alors on va se plonger dans l'univers même de Camille Claudel, dans les statues de Camille Claudel, grâce à Marthe Rousseau. Qu'est-ce que Camille Claudel a apporté à la sculpture? Son œuvre est-elle purement dans le sillon de Rodin ou est-elle réellement singulière? Des éléments de réponse avec Marthe. Voilà, Marthe Rousseau, qui est donc allée visiter à Nogent-sur-Seine le musée Camille Claudel et qui est donc revenue avec quelques éléments apportés à notre information.
Morte en 1943 dans un asile, son œuvre a sombré dans l'oubli pendant plus de 40 ans. Redécouverte dans les années 80, Camille Claudel était capable de modeler la terre pour en faire des sculptures réalistes, exprimant aussi bien la désinvolture, l'amour ou la douleur. Née en 1864, l'artiste virtuose commence la sculpture dès l'âge de 12 ans, à Nogent-sur-Seine, en banlieue parisienne. Conseillée par son premier professeur, Alfred Boucher, elle n'a que 18 ans quand elle sculpte le portrait de la vieille Hélène, la servante de la famille. Les traits marqués par la vieillesse et le regard inquisiteur font de cette œuvre un portrait plus vrai que nature. Camille Claudel parvient avec intensité à retranscrire l'expressivité des visages qui lui sont familiers, comme celui de son frère Paul, dont elle sculpte le portrait en bronze, le buste drapé d'une toge romaine, ou du sculpteur Auguste Rodin, qu'elle rencontre en 1882 et avec qui elle aura une relation artistique et sentimentale. Mais comment travaille-t-elle? Cécile Bertrand, conservatrice au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, explique toutes les étapes du processus de création.
Pour faire une œuvre, Camille Claudel d'abord commençait par réaliser des esquisses. Et à partir de ces esquisses, Camille Claudel va modeler le modèle définitif. Donc c'est une œuvre qui va être en terre crue, qui est donc un matériau qui ne se conserve pas, ou peu. Et donc elle va faire mouler cette terre crue en plâtre. Et c'est à partir de ce plâtre que l'œuvre définitive va être élaborée.
Une fois le plâtre moulé, il est fondu en bronze par un fondeur ou en marbre, que Camille Claudel taille elle-même. Ses sources d'inspiration sont diverses, scènes de la vie quotidienne, littérature et mythologie. La sculpture en plâtre d'1,90 m de deux amants enlacés, intitulée Sakuntala, vient par exemple du drame du 5e siècle du poète hindou Kalidasa. Après sa rupture avec Rodin en 1893, Camille Claudel change sa pratique et fait ce qu'elle appelle des croquis d'après nature en petit format, inspirés de la vie courante. Par exemple, à partir d'une discussion observée dans le compartiment d'un train, elle sculpte les causeuses.
Une œuvre comme les causeuses, donc ce sont quatre femmes assises sur deux bancs, l'une en train de chuchoter et les trois autres dans une tension de leur corps pour écouter ce que dit la quatrième.
Camille Claudel s'inspire aussi de la danse qui rythme son époque, avec la sculpture, la valse. Au bord du déséquilibre, les deux danseurs tournoient dans une valse enivrante, allant tout droit vers l'amour ou la mort. Entre ode à la vie et désespoir, quelle était la réelle attention de Camille Claudel? Ses sculptures étaient souvent réduites à celles d'une artiste tourmentée. Pour Cécile Bertrand, sa palette d'émotions est bien plus large.
On a parfois tendance à voir une forte mélancolie dans les œuvres de Camille Claudel. Je trouve que c'est réducteur, en fait. Je trouve que c'est vrai pour certaines œuvres, mais en même temps, il y a aussi des œuvres très énergiques, comme la valse, des œuvres même qui peuvent être très joyeuses, comme la joueuse de flûte, ou la vague. C'est vraiment une œuvre très, très ludique par rapport à l'œuvre d'Okusai, où la vague est très menaçante.
Alors, mélancolique, peut-être, mais Camille Claudel était avant tout une artiste qui sublimait la réalité, qu'elle soit triste ou heureuse.
Alors, Célia Catalifo, mélancolique, l'œuvre de Camille Claudel ?
Mélancolique, oui, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce, pardon, ces paroles sur l'énergie, la grande énergie de vie de cette femme qui était absolument incroyable. Mélancolique dans le sens où elle est comme quelqu'un habité par des extrêmes, une extrême joie, une extrême tristesse, et quand elle arrive à capter les choses entre les deux, notamment, c'est vrai que je pense à la valse parce qu'on ne peut pas être complètement joyeux en regardant ça. On est emporté par quelque chose, mais il y a quelque chose où on sent aussi que ça peut mal se terminer. Il y a toujours cet espace-temps un peu étrange. Et dans toutes ces sculptures, on retrouve cette ambivalence entre l'extrême joie et l'extrême tristesse, l'extrême solitude.
Ce déséquilibre.
Oui. Alors justement, ce déséquilibre, c'est un problème, ça, pour une danseuse, Mathilde Rance.
Surtout si elle ne doit pas tomber, effectivement, rester immobile dans du déséquilibre, c'est impossible.
Voilà, il y a un entraînement musculaire particulier pour ce genre de pièce, parce qu'on a toujours été frappé par la musculature de ces corps masculins ou féminins, aussi bien d'ailleurs chez Rodin que chez Camille Claudel.
Bah oui, il y a un entraînement, effectivement, il faut vraiment, même s'il y a beaucoup de parties avec de l'immobilité, ça demande, c'est extrêmement exigeant pour le corps, et il faut être très très disponible pour aussi pouvoir passer de moments immobiles à des moments de vrai engagement physique. Donc ça, c'est vrai, ouais, ça demande un vrai travail et une vraie préparation.
La forme humaine, c'est splendide. Les corps sont si vivants. Si je pouvais produire quelque chose de si tangible, de si audacieux, avec une telle richesse dans le sentiment.
Bien. Alors nous pouvons nous dispenser de toute morale, de toute réserve éthique. Excusez-moi, je devais poser la question, car vous êtes à un âge où l'on est facilement impressionnable.
Impressionnable? Alors moi, peu de choses m'impressionnent. En sculpture, le nu n'est jamais offensant. À condition, bien sûr, de posséder le savoir-faire nécessaire pour lui rendre justice.
Ou de pouvoir animer la sculpture.
Alors Mathilde Rance, évidemment, je vais vous poser la question, puisqu'on évoque la nudité à l'instant. Cette question-là, elle a forcément été posée.
Ben oui, et puis pas que poser, elle a...
Elle a suscité beaucoup de débats. Elle a suscité du débat.
Et puis on en est... Oui, ouais. Et puis, disons que tout au long de la pièce, tout au long de la préparation de la pièce, on a été à chaque fois dans l'attente de savoir comment on allait se retrouver finalement sur scène pour la première. Et ça s'est construit et affirmé un peu dans les derniers temps. Donc on a fait plusieurs tentatives, il y a eu plusieurs propositions aussi. Et pour finir avec quelque chose de...
Donc c'est sous-vêtements couleur chair, voilà, et cette poudre blanche.
Voilà, c'est sur tout le corps qui, moi je pense, laisse vraiment voir le corps dans ce qu'il peut avoir de sculptural, dans toute la fibre musculaire, etc. Et qui peut quand même donner accès à une esthétique du corps très fine.
Et on peut dire que la nudité aurait été inutile ?
La nudité complète ?
Oui, complète, en tout cas comme les statues de Rodin. Parce que c'est une question que je pense beaucoup de spectateurs se posent.
Et nous aussi, de l'intérieur, on continue à se la poser. Je pense que, en plus là, la salle est assez petite, etc. Je crois que la nudité peut parfois déplacer un peu les enjeux pour le public et aussi pour la personne, l'interprète sur scène. Et l'enjeu, je pense, est pas du tout d'aller toucher à quelque chose qui pourrait être choquant ou qui pourrait amener le spectateur dans d'autres avec d'autres questions. Donc, je pense que là où on reste quand même assez pudique, et je crois que ça permet de laisser voir des choses plus subtiles que si on était dans du nu total.
C'est lié à Catalifo.
L'idée est quand même de montrer la sensualité, le corps, mais comme un outil d'observation, une anatomie. Et n'oublions pas quand même que ces problèmes de nudité, qui sont encore un des problèmes aujourd'hui, se posaient déjà à l'époque de Rodin et Camille, qui, la plupart du temps, Rodin est un peu plus canaille avec ça, mais Camille, même si elle arrivait quand même à faire beaucoup de choses pour une femme sculpteur à l'époque, elle était quand même souvent obligée de trouver un moyen de draper au niveau du bas-ventre, un mouvement qui protège un peu un téton, enfin toutes ces des petits subterfuges.
Oui, subterfuges. Oui.
Excusez-moi. pour contrer les règles, mais quand même pour imposer la sensualité de l'histoire.
VMDN Théâtre aujourd'hui avec Célia Catalifo, Swann de Marsan et Mathilde Rance pour Claudel de l'Ascension à la Chute, à voir actuellement au Théâtre de l'Athénée à Paris.
Tu es une artiste, Camille, pas le jouet de Rodin.
Je sais ça, et je continuerai de sculpter, quoi qu'il advienne.
Tu sculptais l'os et l'argile avant de le rencontrer. C'est de notoriété publique qu'il couche avec toutes ces modèles. Il est déjà probablement passé par là.
Il a renoncé aux modèles.
Mais...
nous sommes ensemble maintenant. Pourquoi? Pourquoi tu es si dur?
Camille, tu sais qu'il n'y a pas d'avenir avec lui, tu l'as dit toi-même.
Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est différent.
Il ne quittera jamais sa femme.
Mais tu ne comprends rien. Je l'aime. Et il m'aime. Il n'y a rien que je puisse faire.
J'essaie de t'aider. Camille.
Je sais ça.
Tu as de l'argent?
Elle m'a donné l'argent dont j'ai besoin.
Où vas-tu t'installer? Je pourrais venir avec toi?
Non!
Donc, tu fais le tour des fonderies?
C'est ça.
Est-ce que ça ira bien?
Tout ira bien.
Ouais, on sait évidemment que tout ira pas très bien, voire même de plus en plus mal, jusqu'à cet internement de Camille Claudel qui va durer 30 ans. Célia Catalifo, quel regard est-ce que vous portez sur, si j'ose dire, la santé mentale du personnage de Camille Claudel? Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelle est votre perception de sa réalité telle que vous la vivez sur scène?
Bien, moi, je pense que effectivement, elle a été très fragilisée par énormément de choses, qu'en dehors du travail, tout ce qui n'était pas du travail la détruisait, qu'elle prenait tout trop à cœur, énormément, et qu'à partir du moment où elle a compris que Rodin ne l'épouserait jamais, et que son frère partait vers ses horizons
ses
ambitions, que la mort du père, qui était le protecteur, et surtout qu'elle n'avait pas la reconnaissance qu'elle attendait, à laquelle elle croyait dur comme fer depuis qu'elle avait commencé la sculpture, elle avait de la reconnaissance, mais pas comme elle le voulait. Elle était toujours dans l'ombre du maître, c'était insupportable. Il faut aussi évoquer la vie de la solitude d'un atelier de sculpture. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'à un moment, on peut perdre pied dans la vie. Je pense que Camille, elle a perdu pied. Et que malheureusement, au lieu de l'aider, on l'a condamnée, on l'a laissée. On l'a laissée s'enterrer toute seule, on l'a laissée boire, on l'a laissée fréquenter peut-être les mauvaises personnes.
Quand vous dites « on », c'est sa famille?
Sa famille.
Sa mère, son frère.
Qui était terrifiée de l'état dans lequel elle était, et qui n'était pas très courageux, visiblement. Donc oui, elle a perdu pied, elle a eu des crises de paranoïa très graves, elle a eu des délires de persécution encore plus graves, et elle avait certainement besoin de soins, oui. D'aller se reposer un petit peu.
Bon, la responsabilité de Rodin, Swann de Marsan, défendez un petit peu votre personnage, là.
Ah, mais moi, je le défends à 3000%. Ils se sont rencontrés, lui avait 43 ans, elle en avait 18. Et je pense que c'est une des raisons, une des choses qu'on oublie souvent de dire à leur sujet. C'est-à-dire que c'est pas une question, c'est pas juste une question de un homme marié, un peu lâche, qui se fait une petite jeune. C'est bien plus puissant que ça. Et surtout, je pense que dans ce qu'on a diagnostiqué comme de la folie chez elle, c'était une immense souffrance, et qui aussi due à son jeune âge, c'est qu'elle, mis à part sculpter, mis à part le clivage familial, l'enfermement, elle n'a pas vécu grand chose. Et donc quand elle rencontre ce mec qui est en train de rayonner, qui va exploser dans le monde, et qu'elle est embarquée là-dedans, il y a quelque chose d'extrêmement grisant, et quand on lui enlève, c'est terriblement violent. Et donc je défends le personnage jusqu'à un certain point, parce qu'effectivement, il est parti. Mais malgré tout, je crois qu'il y a vraiment, on oublie trop cette question d'âge chez elle. Elle était très fragile. Et aujourd'hui, ça serait évidemment, à mon avis, pas diagnostiqué de la même façon.
Tu ne m'as pas épousée, mais je suis partie.
Voilà.
Non, parce que la position est importante. Elle a renoncé à l'amour.
Célia Catalifo, quel est le message que Camille Claudel, à travers ce spectacle, peut adresser aux femmes d'aujourd'hui, celles qui sont face de vous dans la salle?
Eh bien, continuez de vous battre pour vos belles forces, votre travail et vos engagements et vos passions, et ne laissez personne vous contrer. Soyez sans concession, soyez sauvages et restez les pieds sur terre et les yeux bien ouverts.
Merci beaucoup à tous les trois, Célia Catalifo, Mathilde Rance et Swann de Marsan. Claudel, c'est jusqu'au 24 mars à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet à Paris. Avant de se quitter, direction le Cambodge.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec la clôture hier de la 8e édition du Festival international du film du Cambodge, avec 160 projections gratuites sur 10 sites pendant une semaine et plus de 20 000 spectateurs cette année, le rendez-vous s'est bien développé. Il est aussi devenu un bon moyen de prendre le pouls d'une industrie cinématographique cambodgienne encore naissante. Notre correspondante Juliette Bucher a sillonné les salles obscures de Phnom Penh pour VMDN.
C'est avec un concert du groupe cambodgien Clap Your Hands que le 8e Festival international du film du Cambodge, au CIFF, s'est achevé hier soir. Un moment de célébration pour les participants et surtout pour l'équipe chargée de l'organisation. Cédric Eloy est directeur du festival depuis sa première édition.
On voit qu'il y a une énergie qui est beaucoup plus forte chaque année. On voit qu'il y a une jeunesse qui est demandeuse d'événements culturels de standard international. Je crois que ce qui change au Cambodge, c'est le marché. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fin de l'année 70 écrans au Cambodge. Quand on a commencé le festival, des salles modernes, il y en avait zéro. Mais il y a un réel désir de cinéma et il y a des histoires à raconter qui parlent de la société. Et ça, je trouve ça... je trouve un embryon qui est extrêmement intéressant.
Cette évolution, Davy Chou la note aussi. Le réalisateur franco-cambodgien a fait des débuts remarqués en 2011 avec Le Sommeil d'Or, un documentaire consacré au début du cinéma cambodgien dans les années 60, un élan coupé par le régime Khmer Rouge. Davy Chou présentait une soirée consacrée à Lee Boon-im, l'un des rares réalisateurs rescapés de cette époque. Le film Douceur, épopée fantastique cambodgienne, était projeté pour la première fois depuis près de 30 ans en version remasterisée.
C'était magnifique de voir les spectateurs qu'il y avait en face. Il y avait beaucoup de jeunes, mais aussi des personnes de la génération plutôt de mes parents. Mais en tout cas, ce que j'ai pu voir hier quand on montrait ce film-là, quelque chose que j'espérais avoir depuis longtemps et qui était une reconnexion entre cette jeune génération qui, de fait, à partir du moment où ils n'ont pas accès à ces films-là, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas les connaître. Mais j'ai discuté avec les jeunes cinéastes et ils étaient tous du genre, je pensais pas que j'allais être aussi impressionné que ça par le film. J'ai vu vraiment l'œuvre de quelqu'un qui était visionnaire. Enfin, voilà, ce que moi je ressentais. Et tout ça, c'est une histoire de réconciliation aussi, de génération.
Cette reconnexion des générations fait d'ailleurs l'objet de nombreux films projetés cette semaine au Cambodge, pays marqué par le génocide Khmer Rouge et dont près de 70% de la population a aujourd'hui moins de 30 ans. Les jeunes cinéastes cambodgiens s'emparent d'ailleurs de plus en plus de ces thématiques, comme Zwai Li Meng, dont le court-métrage Short Hair Woman était sélectionné.
Il y a beaucoup de réalisateurs étrangers ou plus âgés qui ont fait des films sur les Khmer Rouges. Mais c'est une chance, selon moi, d'être un jeune Cambodgien aujourd'hui et d'en faire un film.
Cette année, la sélection cambodgienne restait assez limitée, mais les jeunes cinéastes étaient bien dans les salles obscures. Tit Kanita travaille sur son premier film. L'aspirante réalisatrice a assisté à toutes les éditions du CIFF et pour elle, le festival est une aubaine.
Je me dis, waouh, c'est un vrai festival. Tous les jours, je me réveille et je me demande quel film voir, à quelle conférence assister, qui sera là. Ce n'est pas seulement regarder un film, c'est avoir la possibilité d'échanger avec le réalisateur. Ça m'aide dans mon projet.
Au détour d'une soirée consacrée à l'acteur thaïlandais Vithaya Pansringham, un défi semble néanmoins se profiler pour le cinéma indépendant en Asie du Sud-Est. Tom Waller est réalisateur du film thaïlandais indépendant The Last Executioner.
C'est important pour moi de montrer un film thaïlandais au public étranger, mais ce n'est pas ce genre de film qui sort le plus de Thaïlande. La plupart de nos films sont en fait des comédies, des films d'horreur, des choses plus commerciales.
Le développement du CIFF, la multiplication des salles de cinéma ou l'apparition de succès commerciaux cambodgiens comme Jailbreak sont de bons signaux au Cambodge. Les cinéastes espèrent néanmoins que des aides à la création seront bientôt mises en place pour favoriser le développement et la diversité du cinéma cambodgien.
Un reportage de Juliette Bûcher et Célia Catalifo dans le rôle de l'indomptable Camille Claudel. Voulait ajouter quelques mots.
Oui, je voulais remercier et embrasser très fort tous les trois, Swan et Mathilde et moi, nos formidables partenaires, Team Partage et Plaisir, Plaisir et Partage de chaque instant en votre compagnie. Et ce spectacle ne serait rien sans vous. Voilà.
Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal, on se retrouve demain avec Didier Barbelivien qui sort chez Sony Music un album dont le titre est un parfait résumé de sa carrière, créateur de chansons. Et vous m'en direz des nouvelles.